Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 30 Ordibehesht, 1400 du calendrier iranien, 20 mai 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. De bons progrès ont été réalisés dans les pourparlers de Vienne, a annoncé le haut négociateur nucléaire iranien. Le président Rouhani a promis la levée des sanctions avant la fin de son mandat. Le régime sioniste continue ses crimes à Gaza et une dizaine de civils ont été tués par une bombe en bordure de route en Afghanistan. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les sanctions américaines n'ont pas réussi à détourner la République islamique d'Iran de la voie du développement. Rouhani a noté que la guerre économique menée par Washington contre l'Iran avait échoué en raison de la résistance de la nation iranienne. Il a ajouté que les États-Unis avaient tenté de faire pression sur l'Iran en imposant des sanctions au secteur pétrolier et pétrochimique, mais cela a conduit à une augmentation des exportations non pétrolières de l'Iran. Le président Rouhani a souligné que c'était la résistance des Iraniens qui avait forcé les États-Unis à s'asseoir avec ses partenaires européens à la table des négociations afin de relancer l'accord multilatéral nucléaire de 2015. Rouhani a déclaré que les parties au pourparlers de Vienne avaient déjà admis que les États-Unis devraient lever les sanctions anti-iraniennes. Le président Rouhani a promis que la suppression des sanctions se produirait avant la fin de son mandat. Le régime sioniste continue ses crimes contre les Palestiniens. 11e jour de l'agression du régime sioniste contre les territoires sous blocus de Gaza. Les forces israéliennes ont mené des nouvelles frappes sur la bande de Gaza. Une femme est décédée et 12 autres, dont 4 enfants, ont été blessés après que les avions de combat et l'artillerie israéliens ont visé une maison de Khan Younes et une autre à Gaza. Une maison a également été touchée dans un camp de réfugiés palestiniens au centre de la bande de Gaza. Les avions de combat israéliens ont également bombardé un site appartenant à des groupes de résistance à proximité du même camp. En outre, des terres agricoles ont également été bombardées à Khan Younes. Pas moins de 230 personnes ont été tuées depuis qu'Israël a lancé son attaque contre la bande de Gaza le 10 mai. Près de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants, À ce jour, plus de 1500 Palestiniens ont également été blessés, sans oublier plus de 52 000 déplacés. En représailles aux frappes meurtrières incessantes du régime sioniste contre la bande de Gaza, les groupes de résistance palestiniens ont frappé plus d'endroits en Israël. Les brigades Rassam, branche militaire du Hamas, ont pris pour cible un bus appartenant aux soldats israéliens près de la base de Zikim, au sud d'Ashkelon, avec un missile. Les premiers rapports indiquent qu'il y a eu des victimes, sans en préciser le nombre. Des sirènes d'avertissement ont également retenti dans la ville d'Ashkelon. Ces derniers jours, des groupes de résistance palestiniens ont mené des attaques à la roquette sur plusieurs endroits en Israël, dont Tel Aviv. Ces groupes ont promis d'autres attaques si Israël n'arrête pas ses frappes aériennes sur Gaza. Une douzaine d'Israéliens ont jusqu'à présent été tués dans des attaques de représailles des groupes palestiniens. De nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays contre l'agression meurtrière d'Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Des milliers de personnes en Mauritanie et en Tunisie sont descendues dans la rue pour dénoncer les violences israéliennes. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans la capitale libanaise Beyrouth et dans la ville de Taiz, dans le sud-ouest du Yémen. Au Koweït, des manifestants se sont rassemblés à Kuwait City et ont dénoncé toute normalisation avec le régime sioniste. En Afghanistan, au moins 9 personnes ont été tuées après qu'une bombe en bordure de route a détruit un véhicule. L'explosion s'est produite dans la province de Helmand, dans le sud du pays. Un responsable local a déclaré que des femmes et des enfants avaient été tués dans l'explosion dans la capitale de la province, Lashkargah. Le bilan des victimes n'a pas encore été communiqué. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan. Le 8 mai, l'explosion d'une bombe devant une école de filles a fait 85 martyrs, dont la plupart étaient des jeunes filles qui sortaient de l'école. Les expatriés syriens ont commencé à voter pour l'élection présidentielle du pays. De nombreuses personnes se sont présentées dans les ambassades syriennes de plusieurs pays, dont l'Iran, le Liban, la Chine, le Japon et l'Inde, pour voter. Les consulats syriens des deux villes australiennes de Sydney et de Melbourne ont également ouvert les urnes pour que les Syriens vivant dans ces régions puissent voter. Les Syriens à l'intérieur de la République arabe se rendront aux urnes le 26 mai. Le président Bachar el-Assad, Abdullah Saloum Abdallah, un ancien ministre d'État, et Mahmoud Marey, une figure de l'opposition, sont les trois candidats à la présidence. Bachar el-Assad a remporté une victoire écrasante lors de la dernière élection présidentielle, tenue en 2014. Et enfin, la Chine a accusé les États-Unis de violer sa souveraineté dans la mer de Chine méridionale, au milieu des tensions accrues opposant les deux pays. La Chine affirme qu'un navire de guerre américain est entré illégalement dans ses eaux territoriales. Selon l'armée chinoise, le navire américain est entré dans les eaux près des îles Paracel sans autorisation et a été suivi par des navires et des avions de combat de l'armée chinoise. Pékin a déclaré que cette décision visait à saper la paix et la stabilité régionale. Les actions américaines augmentent les risques pour la sécurité régionale et pourraient provoquer des malentendus, des incompréhensions et des incidents maritimes imprévus, a déclaré un porte-parole de l'armée chinoise. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le principal négociateur iranien a déclaré que de bons progrès avaient été accomplis dans les pourparlers de Vienne entre les parties restantes à l'accord nucléaire de 2015, mais que les participants doivent retourner dans leurs pays respectifs pour de nouvelles consultations sur certaines questions en suspens. Au cours des deux dernières semaines, qui constituait le quatrième cycle des pourparlers, je pense que de bons progrès ont été accomplis. Et il y a certaines questions clés qui appellent à davantage de consultations et de décisions à prendre dans les capitales des pays respectifs des négociateurs, qui, nous l'espérons, sera atteint dans les prochains jours, afin que nous puissions parvenir à une conclusion à leur sujet lors du prochain cycle des négociations, a déclaré mercredi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, Abbas Araghchi. Il a ajouté qu'il y avait un accord sur d'autres questions et que de bonnes mesures avaient été prises sur un projet de texte pour relancer l'accord de 2015, connu sous le nom du Plan global d'action conjoint, de sorte que les négociateurs retourneront dans leurs capitales respectives pour des consultations finales, puis ils reprendront les pourparlers dans la capitale autrichienne. La Russie parle également de progrès significatifs, mais affirme que certains problèmes non résolus demeurent. Pendant ce temps, Mikhail Yulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré mercredi que des progrès significatifs avaient été accomplis par les négociateurs cherchant à orchestrer un retour américain au plan global d'action conjoint abandonné par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, mais des problèmes non résolus subsistent. Ces remarques sont intervenues après qu'il ait été cité qu'une annonce importante serait probablement faite mercredi lorsque la commission mixte du plan global d'action conjoint se réunira pour son prochain cycle de négociations à Vienne. Dans le même temps, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré lors d'une réunion du cabinet mercredi que les pourparlers de Vienne se termineraient par une victoire de l'Iran. Il a déclaré que son gouvernement s'était engagé dans des négociations fructueuses pendant 8 ans et a souligné: nous n'avons pas négocié, à moins que cela se termine par une victoire. Je promets à la nation que la fin des pourparlers de Vienne marquera une victoire pour la nation iranienne, et aujourd'hui, nous avons fait de grands pas, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le porte-parole de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Aboulfazl Amoui, a déclaré mercredi aux journalistes que la délégation de la République islamique d'Iran avait été invitée à assister à la réunion de la commission la semaine prochaine pour présenter un rapport sur les pourparlers de Vienne. le président américain Joe Biden a exprimé sa volonté de revenir dans le plan global d'action conjoint laissé par Donald Trump en 2018. L'Iran déclare que les États-Unis, en tant que partie qui a quitté l'accord, doivent revenir au respect de l'accord nucléaire de 2015 en supprimant toutes les sanctions qui ont été réimposées contre la République islamique d'Iran après le retrait des États-Unis. L'Iran dit qu'il suspendra ses contre-mesures une fois qu'il pourra vérifier la suppression des sanctions.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait aborder ce qui se passe actuellement entre la résistance palestinienne et le régime israélien. La résistance palestinienne en guise de riposte à ces agressions continues du régime israélien n'a cessé ces derniers jours de viser des cibles névralgiques est très très importante à l'intérieur d'Israël, des bases aériennes, des aéroports, des oléoducs et en fait et d'autres cibles importantes à l'intérieur du en fait des territoires occupés des territoires occupés de 1948. Vite sur le plan politique, on a assisté à ce soutien sans faille du côté en fait américain à ces agressions israéliennes. Les États-Unis ont ces derniers jours bloqué à plusieurs reprises des efforts au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour contraindre le régime israélien de mettre un terme à ces agressions contre la bande de Gaza. Et du côté de la résistance, la solidarité est entière dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, où les Palestiniens sont en grève générale. Dans les pays voisins, en Jordanie, au Liban, les Jordaniens et les Libanais, les Syriens ont exprimé leur pleine solidarité avec les habitants de la bande de Gaza et les Palestiniens. Quant à l'Iran, le pays important de l'axe de la résistance, dès le premier jour, en fait, Téhéran a apporté son plein soutien à la résistance palestinienne tout en condamnant les agressions israéliennes contre la bande de Gaza. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation. Et bonjour à M. Develet et à tous les auditeurs.
Merci beaucoup. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous dans l'état actuel des choses, ce qui se passe actuellement entre la résistance et palestinienne et ses alliés d'un côté et le régime israélien et ses alliés inconditionnels, très particulièrement les États-Unis, d'autre côté, Madame Midani?
En fait, les États-Unis soutiennent Israël effectivement comme d'habitude, hein, je dirais, et ils soutiennent inconditionnellement les crimes israéliens contre l'humanité et tous ces crimes et toutes les exactions contre la population de Palestine. Mais de l'autre côté, je peux dire, c'est quelque chose de très important qui se passe, c'est quand même un un trait historique, je peux dire, aujourd'hui, dans la mesure où l'ensemble, non seulement l'ensemble de la population palestinienne est unie dans ce combat, mais que aussi l'ensemble des peuples arabes de tous les pays de la région, en fait, d'un côté, mais aussi de tous les pays, même l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., et soutiennent complètement tous les peuples arabes aussi, et soutiennent donc la révolution palestinienne, en fait, la lutte du peuple palestinien dans toutes ces catégories, si on peut parler de catégories, c'est-à-dire les Palestiniens des territoires occupés en 1948, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Jérusalem. Et ça, c'est très, un fait très important que l'ensemble des Palestiniens soient unis dans cette lutte. Ajouté, bien entendu, au peuple iranien, le peuple pakistanais. On a vu aussi des grandes manifestations de soutien dans le monde entier aux Palestiniens, c'est-à-dire y compris à New York, à Chicago, partout dans les villes, dans les grandes villes américaines et européennes, un grand mouvement de soutien et un grand cri du cœur de tous les peuples qui sont épris de liberté et de justice aux côtés du peuple palestinien. On peut dire que c'est quelque chose de très important dans la mesure où la question palestinienne reprend le dessus au niveau mondial, et cette grande injustice qui existe et qui est vraiment un crime en fait contre l'humanité et qui est une tare en fait de la loi du règne international actuel, de l'ordre international actuel, et qui doit être absolument résolu avec justice. Et le peuple, le monde doit rendre justice au peuple palestinien. Vraiment.
Et Maître de Velay, vous êtes juriste, spécialiste des questions internationales également, spécialiste des questions juridiques. Est-ce que vous aussi, vous estimez que, en fait, la question palestinienne, avec cette vaillante résistance du côté, si vous voulez, des Palestiniens, très particulièrement du côté des habitants de la bande de Gaza, a repris le dessus et le monde entier désormais prend conscience davantage de la priorité, si vous voulez, de la question palestinienne et de la nécessité de donner la primauté aux droits, si vous voulez, des Palestiniens.
Écoutez, comme je vais paraphraser quelqu'un dont on a célébré le 200e anniversaire de son décès récemment en France, il disait: si tu veux la paix, prépare la guerre. En droit international public, le droit qui régit les relations entre États est un État qui est un État de droit qui est en soi intrinsèquement lié à la puissance non seulement des États, mais des peuples, quant à faire valoir leur droit à la liberté, à la dignité et donc par définition à la souveraineté. Donc ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, mais comme Madame Milani l'a soulevé également dans toute la Palestine occupée, les territoires de 48, comme la Cisjordanie et comme Quds, laisse entendre que plus que jamais ce dossier est au cœur des problèmes du monde, que c'est une injustice qui perdure depuis maintenant plus de 70 ans déjà, et que malgré les investissements, les couvertures diplomatiques, les fournitures en armes les plus sophistiquées, la résistance a remporté déjà, la victoire, dans le sens où elle a revitalisé la cause palestinienne, revitalisé au-delà de la cause palestinienne la nocivité de l'entité sioniste dont on a toujours tendance à dire qu'elle a le droit d'exister. Aucun État en tant que tel n'a le droit d'exister si cet État utilise la souveraineté et le territoire qu'elle est susceptible d'occuper en tant que base pour des activités criminelles. Et quand je dis criminel, c'est au sens d'organisation criminelle au travers de ce que la souveraineté et le fait d'avoir un État peut octroyer. Donc c'est au-delà de ça quelque chose qui concerne aussi l'Occident. Je ne le dirai jamais assez, la ligne de front eu égard à ce à quoi nous assistons en Occident avec cette nouvelle réalité qui nous est imposée alors que les faits sur le terrain démontrent que cela n'a absolument aucun rapport avec ce qui est mis en place, c'est lié aussi à ce qui se passe au Levant. C'est la même clique, ce sont les mêmes mafias. Et je crois qu'il est important de souligner que cette séquence, qui quelque part est la première depuis 2014, rappelez-vous, la situation dans la région était extrêmement divisée. Cette même clique avait réussi, en tout cas était en passe de réussir un nouveau changement de régime. Et là, on est maintenant 7 ans plus tard et la configuration a complètement changé. Beaucoup de choses ont évolué depuis lors. L'axe de la résistance a réussi à coordonner ses différentes composantes. Et nous assistons maintenant, et nous allons probablement en parler un peu davantage dans ce débat, nous avons maintenant une nouvelle stratégie qui a été mise en place et qui est en train lentement mais sûrement de démontrer que en fait l'invincibilité du régime sioniste n'est qu'un mythe.
Merci. On va revenir, Maître de Volet, de plus tard, en fait, sur ce point autre et important que vous soulevez, que voilà, l'axe de la résistance, c'est de, selon vous, va désormais, en fait, mettre au point une nouvelle stratégie. Madame Midani, Maître de Volet vient, en fait, de le dire, je voudrais savoir si vous confirmez son point de vue, son avis ou pas. Maître de Volet, il dit quoi là, la résistance palestinienne a remporté la victoire parce que en fait cette résistance a réussi à revitaliser la question palestinienne et également elle a réussi à si vous voulez à mettre en évidence la vulnérabilité du régime israélien, c'est-à-dire que Maître de Volet parle de la vulnérabilité de ce régime alors que en fait ces derniers jours l'ont démontré. Et le régime israélien se trouve en fait impuissant face à cette riposte du côté palestinien, Madame Midani.
En fait, la question, c'est effectivement d'abord, je peux dire que le fond de la résistance par son organisation, par le soutien qu'il a fait à la résistance palestinienne, d'une part. D'autre part, Les grandes victoires, je dirais, de tous les pays du front de la résistance, c'est-à-dire la mise en échec du plan de casse et de partage et de séparation de la Syrie, le plan de destruction de l'échec du plan de destruction du Yémen, l'échec du plan de destruction aussi de l'Irak. Et aussi l'échec de la mise en sous cloche, je dirais, de l'Iran. Tout ceci a donné, ce sont tous les pays de cet axe de la résistance qui ont remporté des victoires, qui remportent tous les jours des victoires importantes contre l'impérialisme international contre, en gros, les États-Unis et ses alliés. Donc, tout ça vulnérabilise effectivement l'État sioniste. Ça, d'un côté. D'un autre côté aussi, bien sûr, les victoires aussi et les déterminations du peuple palestinien, mais aussi le fait que quand on est mercenaire, on n'a pas très envie de se battre. Mais quand on a une cause à défendre et qu'on a la justice à ses côtés, on va au combat à 100%. Et donc, cette détermination, cette foi dans la victoire et cette volonté de s'affranchir de toutes ces du joug de la de l'occupation israélienne donne redouble la force du peuple palestinien, bien sûr, en plus du fait que il a bien réussi aussi à ajuster ses armes et à augmenter, à préparer les armes qu'il faut aussi pour sur le plan militaire, je veux dire, convaincre Israël. Mais ce n'est pas uniquement le plan militaire qui permet de gagner une guerre. On voit en plus l'aspect qui était juste du bloc de cette histoire du dôme de fer, le bloc aussi médiatique que constituait l'histoire d'Israël l'invincible, ou l'armée la plus forte du Moyen-Orient, etc. Tout ceci, c'était des messages médiatiques qui gardaient peut-être une chape de peur, qui ont été déjà bien, bien cassés et bien démasqués par la résistance libanaise, et puis, maintenant par la résistance palestinienne aussi, à plusieurs reprises. Donc, on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une phase justement de changement mondial aussi, dans une phase de changement des rapports de force dans la région et une phase de changement. Moi, je pourrais dire, je vois que la libération de la Palestine est plus proche que jamais.
Maître de Velay, Madame Midani, parle de... du changement du rapport de force dans la région. Madame Midani estime que voilà, la donne a changé dans la région et venait tout à l'heure parler d'une nouvelle stratégie que l'axe de la résistance compte mettre au point, envisage d'appliquer. Pourriez-vous nous en parler davantage, Maître de Velay, s'il vous plaît?
Oui, je dirais juste à titre liminaire que le rapport de force a toujours été là. Le problème, c'était la coordination et l'unification. Maintenant, cet aspect semble avoir été réparé, si je puis dire, et avoir maintenant une applicabilité sur le terrain. Maintenant, ce qui concerne cette stratégie, c'est simplement la stratégie balistique, avec des instruments qui permettent maintenant de renverser complètement la donne en utilisant non seulement des barrages de roquettes pour mettre à mal les systèmes de défense du soi-disant dôme de fer, mais par la suite en ayant créé cet état de panique et cet état de désorganisation et de saturation balistique, dans un premier temps avec des missiles à courte portée, la résistance palestinienne est maintenant en mesure de passer à la phase suivante, d'utiliser des engins balistiques avec des rayons d'action beaucoup plus accrus et très précis, qui permettent de passer complètement au travers et d'atteindre des cibles stratégiques. Parce que c'est une guerre, bien sûr, au sens premier du terme, mais c'est aussi une stratégie qui est fondée sur la destruction de l'économie sioniste. L'économie sioniste a pour objet de créer, soi-disant, le narratif selon lequel c'est une oasis, je cite, dans le désert. Si l'économie sioniste, et on entend maintenant des chiffres de l'ordre de 50 millions de dollars par jour, ça commence à faire beaucoup après 10 jours, qu'on atteint les raffineries, qu'on atteint les plateformes illégales, si je puis dire, au large des côtes de la Palestine occupée, donc le site Léviathan, qui remet complètement en cause le long terme en ce qui concerne l'exploitation de ces sites gaziers, les aéroports. L'idée même maintenant pour un citoyen sioniste de penser qu'il peut élever ses enfants dans un environnement pareil est complètement remis en question. Et c'est ça qui va au cœur de la stratégie actuelle. Et j'ajouterai à cela que nous n'avons même pas pris la mesure de ce que l'acte de la résistance dans sa globalité est capable d'accomplir. Il s'agit juste pour l'instant d'une première phase. Vous pouvez être sûr que les autres composants de la résistance prennent note des protocoles de défense balistique et des protocoles tout court de l'armée sioniste. Et les renseignements militaires de ces autres composantes se trouvent actuellement décuplés par les observations sur le terrain.
Madame Midani, de votre analyse sur cette nouvelle stratégie selon maître de volet balistique de la résistance, s'il vous plaît.
Oui, effectivement, en fait, le fait de viser les points économiques, en fait, le fait d'avoir, par exemple, provoquer l'arrêt des deux aéroports israéliens. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement d'avions. Le fait d'avoir aujourd'hui, par exemple, les routes, ils visent à couper les routes principales, en fait, aussi la base, la plateforme d'extraction de gaz qui est tout à fait illégale, comme il l'a bien dit, maître de volet, en fait, le fait de la viser et puis de provoquer aussi son arrêt. Je rappelle aussi quand même, il y avait l'usine qui a de fabrication des moteurs de missiles qui avait explosé quelques semaines auparavant, et aussi donc pas mal de choses, des points névralgiques, une usine chimique qui a aussi explosé, etc. Tout ça, c'est quelque chose de très important au niveau de la stratégie de qui est visée par les tirs de missiles de la résistance palestinienne. Mais je continue quand même à penser que ce qui est plus important, c'est aussi l'unité politique de l'ensemble des forces palestiniennes qui a été provoquée par le mouvement populaire de Jérusalem, qui a imposé effectivement à toutes les organisations palestiniennes de s'unir ou de s'unir dans ce combat. Ça, c'est un point qui est quand même très très important, mais aussi le fait que ce soit les Palestiniens des territoires de 40, occupés en 48 qui se sont joints au combat, et où les Israéliens pensaient avoir eu non seulement gain de cause, et que de toute façon, cette partie de la Palestine est déjà complètement intégrée et complètement assimilée par le sionisme. Donc en réalité, on voit que de toute façon, le peuple palestinien aspire à la libération de son pays, à la libération de l'ensemble de la Palestine, et que ce mouvement jouit d'un soutien des autres, des peuples au niveau mondial, de tous les peuples qui aspirent à la liberté et à l'indépendance. Ça lui donne aussi, ça montre qu'on est en train de franchir une phase, je dirais, qualitativement supérieure et un point de non-retour dans cette situation, aussi bien sur le plan local, enfin sur le plan que sur le plan mondial, puisque la question est posée dans toute sa globalité et avec toute son ampleur, avec un soutien d'un ensemble de pays et de peuples qui revient effectivement sur la scène.
Merci beaucoup, Madame Aïssa Midani, analyste de politique franco-syrienne, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Hayat Tahrir al-Sham développe son recrutement à toute la province d'Idlib en Syrie. Le groupe terroriste takfiriste offre aux jeunes Syriens de la province d'Idlib, au nord-ouest du pays, de nombreuses incitations à rejoindre ses rangs. Hayat Tahrir al-Sham poursuit ses efforts pour consolider sa puissance et sa force militaire dans la province syrienne d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, en recrutant davantage de combattants. Il a créé un service de recrutement militaire avec de nombreuses divisions affiliées à travers la province, qui accueille les jeunes hommes souhaitant rejoindre l'une des brigades du groupe. Le 10 mai, un membre du conseil de Hayat Tahrir al-Sham, Mazhar al-Weiss, est apparu dans une vidéo donnant un discours à un groupe de recrues de Hayat Tahrir al-Sham, dans lequel il a déclaré « Prenez l'initiative et marchez dans les pas des héros ». L'annonce sur Telegram comprenait les comptes de 8 unités de recrutement et chacune a 2 numéros de contact sur WhatsApp et Telegram. Les 8 unités qui font partie du département de recrutement militaire de Hayat Tahrir al-Sham se trouvent à Atma, au Harem, dans la région du Nord, dans la zone centrale, à Sarmada et dans la capitale Idlib. Commentant la création du département du recrutement militaire à Idlib, Weiss a déclaré via Telegram « Le lancement du projet du département du recrutement militaire, avec ses affiliations et ses divisions de volontariat dans les zones libérées, est une étape importante pour faire avancer et organiser les efforts militaires, et il est un message clair que la volonté de lutter persiste. La justice et les projets ne sont servis et protégés que par la construction d'armées et de bataillons. Ô jeunes musulmans sunnites, hâtez-vous de rejoindre les rangs des héros pour remplir votre devoir de la charia, d'expulser l'oppresseur et de protéger les saints. » Le département du recrutement militaire de Hayat Tahrir al-Sham a mené une campagne médiatique pour inciter les jeunes hommes d'Idlib à se porter volontaires en distribuant des tracts dans un certain nombre de régions d'Idlib et dans la campagne voisine d'Alep à l'ouest. Rejoignez les héros de la libération et contactez-nous via les récits suivants, lit-on dans Le Pliant. Les annonces concernant l'ouverture de la porte à davantage de recrues et la création d'un département spécial à cet effet soulèvent de nombreuses questions sur les motivations des jeunes Syriens d'Idlib qui rejoignent les rangs de Hayat Tahrir al-Sham. Des questions se posent également sur la question de savoir si les opérations de recrutement du groupe Hayat Tahrir al-Sham sont plus importantes que celles des factions de l'armée syrienne libre soutenues par la Turquie et sur le but de la création du département de recrutement militaire. Abbas Sharifeh, chercheur sur les groupes takfiristes dans un centre d'études basé à Istanbul, a déclaré à Al-Monitor que Hayat Tahrir al-Sham essaie de contrôler les opérations de recrutement au sein d'une institution organisée et des registres écrits pour éviter les accusations de recrutement d'enfants, ce qui les gênerait légalement dans le cas de sa classification sur la liste du terrorisme, car le mouvement tente de retirer son nom de cette liste, d'améliorer son image en Occident et de se présenter comme une organisation respectant le droit international. Abbas Sharifeh a ajouté « La création d'un département spécial pour le recrutement et ses divisions à travers Idlib attirera un plus grand nombre de recrues en atteignant un segment social plus large puisque les recrues sont dispersées dans un grand nombre de zones. » Il a déclaré que Hayat Tahrir al-Sham veut montrer qu'elle est une entité organisée et qu'elle dispose désormais d'une armée qui suit des méthodes de recrutement modernes, organisées et transparentes. Concernant la possibilité que Hayat Tahrir al-Sham impose la conscription aux jeunes Syriens vivant dans les zones sous son contrôle à Idlib, Abbas Sharifeh a déclaré qu'il ne pensait pas que le groupe ait besoin d'imposer la conscription, en particulier en raison de la forte densité de population dans les zones libérées et l'absence de batailles actuellement, en plus du coût matériel ultérieur d'une telle conscription. En outre, il craint le ressentiment et le rejet populaire face à une telle démarche. Il dit « Je pense que le recrutement sera volontaire pour le moment. » Le manque d'opportunités d'emploi et le chômage généralisé parmi les jeunes Syriens d'Idlib sont l'un des facteurs les plus importants qui poussent les jeunes hommes à rejoindre des opérations armées ou une faction. Hayat Tahrir al-Sham semble être la destination privilégiée des recrues pour plusieurs raisons, mais principalement parce que ses salaires sont élevés par rapport à ceux des combattants de l'armée syrienne libre. Un responsable militaire de l'armée syrienne libre a déclaré à Al-Monitor, sous couvert d'anonymat, que Hayat Tahrir al-Sham paie à ses combattants le double du salaire mensuel d'un combattant de l'armée syrienne libre. Les jeunes hommes veulent rejoindre Hayat Tahrir al-Sham pour obtenir un salaire plus élevé. Le responsable a déclaré que la politique de Hayat Tahrir al-Sham est basée sur l'attraction et le recrutement de plus de combattants, tandis que les factions de l'armée syrienne libre ne veulent pas recruter de grands nombres et le recrutement est actuellement limité en raison de leurs ressources limitées. Le responsable a déclaré que si les salaires mensuels des combattants de l'armée syrienne libre ne dépassent pas 50 dollars, les combattants de Hayat Tahrir al-Sham touchent environ 100 dollars et un combattant marié reçoit un salaire d'environ 125 dollars. Les combattants de Hayat Tahrir al-Sham reçoivent également une aide alimentaire et des rations mensuelles qui répondent à une grande partie des besoins de leur famille.